C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le sujet pour aujourd'hui, évidemment, est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'élargissement des critères qui sont maintenant définis pour obtenir l'aide médicale à mourir? Luc?
Non, on ne doit pas s'en inquiéter. Au contraire, on doit promouvoir ça à fond la caisse. Mais j'ai peur que ça passe pas. Parce que, bon, il y a quatre affaires là-dedans. Là, premièrement, on propose d'élargir aux maladies mentales. Deuxièmement, on propose de faire une liste de maladies qui serait désormais admissible, mais elle est trop courte, on verra plus tard. Troisièmement, on propose d'imposer aux maisons de soins palliatifs d'offrir nécessairement l'aide à mourir. Il y a 10 des 35 maisons qui s'opposent ou qui ne le font pas. Mais aussi, on fait tomber le critère de fin de vie. Donc, tu peux programmer ta mort si tu sais que tu as Alzheimer, puis que tu vas un jour être incapable de demander l'aide à mourir, tu peux le demander à l'avance. Et là, est attaqué de toutes parts le projet de loi séance. Ouais, est attaqué de toutes parts parce que, premièrement, il n'y a pas... Bon, il y a une attaque mineure. Il y a un consensus pour une attaque mineure. Les médecins sont sortis là-dessus. Le conseil des personnes avec des déficiences aussi. Donc, une maladie neurodégénérative telle qu'elle est définie dans la loi, c'est pas assez précis. Il n'y a rien qui indique qu'il n'y a pas d'autres maladies mentales ou handicap physique ou moteur qui n'auraient pas les mêmes caractéristiques. Et donc, la loi serait injuste au niveau de la Charte des droits et libertés. Pourquoi telle maladie? Pourquoi pas telle autre maladie? La solution, les libéraux l'ont trouvée. Il faut faire un forum. Il faut demander l'avis de toutes les personnes et parties prenantes. Il faut mieux définir les maladies qui vont être couvertes par la loi. Ça, c'est facile à régler. Ça va se régler. Mais ce n'est pas réglé actuellement. Mais deuxième problème majeur, bien plus important, c'est que si tu programmes ta maladie, ta fin de vie, il n'est pas certain que tu tombes à ta fin de vie, même si tu as Alzheimer, dans la catégorie souffrance incurable et intolérable. Or, les médecins tiennent à mort à ça. Il faut que ça soit souffrance incurable, intolérable. Mais il y a de la démence heureuse. On ne sait pas qui, mais parmi les gens qui vont attraper Alzheimer ou Parkinson ou autres problèmes de démence, il y a des gens qui vont être relativement heureux. Ils vont se lever souriant, aucune conscience de ce qui les entoure, pas capable de reconnaître quelqu'un même s'ils l'ont vu il y a une heure, mais souriant, heureux, à l'aise, pas souffrant. Alors les médecins vont dire, le critère même de la loi, c'est on n'est pas capable de vous guérir et vous souffrez constamment. Et ça, c'est pas garanti lors d'une maladie, lors d'une démence, notamment d'Alzheimer.
Paul, moi, je reviens à ta question. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'élargissement de l'aide médicale à mourir? Oui, si tout est fait dans la précipitation. Et Luc, tout ce que tu as dit commande du temps. Puis j'ai envie de vous dire, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce projet de loi qui a été déposé le 16 février dernier, commence à être étudié. Il y a 36 groupes qui vont aller s'exprimer en commission parlementaire sur les dispositions liées à l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Peut-être, quand tu as dit, Luc, santé mentale, je suis pas certaine qu'on a inclus la santé mentale cette fois-ci dans l'élargissement de l'aide médicale à mourir.
Ben, j'ai cru comprendre ce que je comprends. Ça.
Ouais, ce que je comprends, c'est que tu as référé aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir, donc on peut programmer notre mort. On élargit aussi pour les handicaps neuromoteurs graves, la paraplégie, paralysie cérébrale, l'amputation après un accident. Puis bon, tu as parlé des maisons en soins palliatifs. Le but, c'est de toujours de permettre la mort dans la dignité. Hier, lorsque la députée, je sais jamais comment prononcer son nom de famille, Jennifer
Macaron,
lorsqu'elle a fait sa sortie, elle a deux enfants autistes. Elle dit il faut que les droits soient équitables pour tous. Et elle souhaite qu'on puisse élargir la notion de handicap. Là, la ministre a dit un instant, c'est pas ce qui est prévu dans le projet de loi. Par contre, elle n'a pas fermé la porte, comme tu l'as dit, Luc, à entendre un autre groupe d'experts, parce que faut savoir que le projet de loi qui était déposé en février dernier est pratiquement un copier-coller du projet de loi qu'avait déposé avant Christian Dubé, mais qui n'a pas pu être adopté. Alors, lorsque la ministre fait, c'est on reprend l'exercice. Mais en élargissant, ce qu'il faut s'assurer, c'est que la loi du Québec soit compatible avec celle du fédéral, parce que la loi fédérale prévoit aussi certaines dispositions, et elle élargit la loi fédérale à des notions qui sont plus larges que, par exemple, les maladies liées à un handicap neuromoteur grave. On parle de handicap plus large. Rendu là, moi, j'ai envie de vous dire, les amis, là, il faut prendre notre temps, parce que ça soulève des questions éthiques très importantes, c'est des sujets extrêmement sensibles. Bien qu'il y ait un large consensus au Québec pour élargir l'aide médicale à mourir, les parlementaires ne doivent pas être brusqués dans cet exercice extrêmement important et transpartisan qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de donner leur accord à une loi avec laquelle on va vivre pendant très, très, très longtemps là, comme société.
Et qui va faire l'objet de poursuites de part et d'autre.
Tu crois?
Ah, moi, je pense.
Tu crois, Luc?
Peut-être que les conservateurs sont déjà sortis.
Ben, je pense que je suis un peu d'accord avec Luc. Je pense pas qu'à date, ils s'entendent pour inclure ce qu'on a appelé les cas de dépression. Là. Puis là, les gens, des fois, ils mélangent les affaires. Là. C'est pas quelqu'un qui est en dépression puis qui demande l'aide médicale à mourir. Mais il y a des cas de gens qui sont en dépression depuis 20 ans. Tous les traitements ont été essayés. Puis ce sont des cas rarissimes. Là. Et qui aurait peut-être droit aussi. Mais c'est vraiment l'exception, puis c'est vraiment très rare, tu sais. Mais est-ce que des groupes vont vouloir contester? Moi, je pense que oui, surtout la loi canadienne. Peut-être qu'au Québec, moins, là. Mais la loi canadienne, c'est officiel que ça va être contesté.
Parce qu'elle est trop large, je pense que
ça devient idéologique, là.
Mais à Ottawa, c'est un sport.
Voyons.
J'ai vérifié, Nathalie, les maladies mentales, donc graves et incurables, sont inclus. La particularité des maladies mentales, c'est ce que Paul vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit des maladies où c'est à la fois grave et incurable et où il y a souffrance intolérable et qui ne peuvent pas être soignées. Aux Pays-Bas, ils ont mis cette disposition dans la loi-là et c'est 0,87% des maladies qui tombent dans cette catégorie-là. Donc, seulement 42 demandes sur 4800 demandes. Donc, c'est une définition très, très, très restrictive de ce qu'est la maladie mentale. Et je trouve ça extrêmement malheureux. Cette espèce de pouvoir que s'arrogent les médecins de dire, nous autres, on va te le dire, c'est quoi ta dignité, puis on va te le dire, c'est quoi qui est incurable. Parce que, par exemple, un médecin peut dire, je peux te soigner, je vais te donner des médicaments qui vont totalement te rendre constamment nauséeux, à moitié présent, à moitié légumes, mais tu souffriras pas. Et selon eux, c'est un traitement. On t'a soigné. Ben non, tu m'as pas soigné. Tu m'as juste soigné selon tes termes à toi. Moi, j'ai plus de dignité, j'ai plus de conscience, j'ai plus de capacité de vivre, de plaisir de vivre. Selon les termes d'un médecin, je suis soigné. Selon les termes d'un humain, je le suis pas. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit même pas une aide médicale à mourir. On enlève médical de là. C'est pas au médecin de décider c'est quoi la qualité de vie. Qu'une personne ne veut pas être Alzheimer, moi, je ne veux pas être Alzheimer. Que je sois en démence heureuse ou pas, je ne veux pas que ce soit quelqu'un qui s'occupe de moi dans mes moindres besoins intimes. Je ne veux pas. Toi, tu es médecin, puis tu vas me dire que toi, tu veux, par contre. Ben non, je veux. C'est pas à toi de décider. C'est pas ta dignité. C'est pas ta vie. C'est pas ta conscience.
Oui, mais c'est intéressant ton commentaire, Luc, parce que comme société, je pense qu'on a... On a fait la part entre la responsabilité du médecin puis ce qu'on veut comme société, parce que faut prendre la mesure des progrès, des pas de géant qu'on a accomplis en matière d'aide médicale à mourir. Avant 2015, là, on parlait pas de ça. Depuis 2015, 10 786 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir. Nathalie Collard écrivait dans la presse en décembre dernier que par million d'habitants, le Québec à lui seul surpasse l'Ontario, le Canada et la Belgique. En fait, le rôle du médecin, parce que le Collège des médecins émet une opinion, évidemment, sur toute cette question liée à l'aide médicale à mourir. Mais le médecin, Luc, est quand même important parce que c'est lui, avec les professionnels en soins, qui va administrer les médicaments qui permettent d'atteindre l'objectif. D'ailleurs, dans la présente mouture du projet de loi, les infirmières praticiennes spécialisées vont pouvoir, elles aussi, administrer l'aide médicale à mourir. Mais sur le plan sociétal, Luc et Paul, on a une approche très décomplexée par rapport à la mort et à l'importance de mourir dans la dignité. Ça, pour moi, c'est devenu non négociable au Québec.
On s'arrête pour la pause. Au retour, rapport des commissaires, puisque nous sommes vendredi.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, rapport des commissaires, c'est Nathalie qui commence.
Oui, un, deux, trois, go à vos frigos. Une nouvelle plutôt inattendue cette semaine avec la décision de la SAQ de retirer tous ses frigos de ses succursales. L'objectif, c'est de contribuer à l'effort de réduction des gaz à effet de serre. Moi, j'y vois plutôt une opération marketing entre vous et moi. Ça va-tu vraiment faire une différence que tous les frigos de toutes les succursales de la SAQ soient retirés? C'est une mauvaise nouvelle, faut le dire, pour les retardataires qui ont besoin d'une bouteille bien froide pour le souper chez la belle-sœur ou chez le beau-frère. Honnêtement, je suis pas sûr que ça va faire une différence tant que ça. Les balados de M. Legault, ça c'est aussi une autre nouvelle cette semaine qu'on n'attendait pas. Il a reçu comme première invitée Régine Laurent, une femme absolument extraordinaire qu'on a toujours plaisir à entendre. Moi, je lui suggère comme prochaine invitée le PDG de la SAAQ. Monsieur Denis Marcellet, je pense que ça ferait un très, très beau duo, d'autant plus que le premier ministre a avoué admis une part de responsabilité de son gouvernement dans le fiasco de la SAAQ. Alors, je suis convaincue que c'est le genre de balado qui serait extrêmement populaire. Et d'ailleurs, quand le sort s'acharne, Paul, tu as parlé cette semaine de cette boîte de permis de conduire retrouvée dans un éco-centre de Charlebourg.
Une centaine de permis, je pense.
270, les gars, avez-vous pensé ça? Ça veut dire qu'il y a 270 personnes au Québec là qui attendent leur permis de conduire. Puis les pauvres, écoute, tout ça s'est retrouvé dans une boîte de carton dans un éco-centre. C'est un employé qui a alerté la police. D'ailleurs, SPVQ, la SAQ enquête sur...
Mais le pire, c'est que c'est pas recyclable.
Cette débandade.
En plus.
C'est un morceau de papier plastifié des deux bords. Tu peux pas recycler ça.
Ben non, exactement. Mais non, mais tu sais, quand tu dis... oui, le sort s'acharne. Les colonnes du temps vont shaker la citation de la semaine de notre bon ministre de la Santé, Christian Dubé. Mais lorsque j'ai lu cette expression, j'ai pensé à Jean-François Roberge, le ministre de la langue française, le nouveau censeur de responsable de la censure des expressions anglaises au Conseil des ministres. Et là, je me suis dit, peut-être que M. Roberge pourrait... une suggestion constructive en passant, mettre un pot puis au Conseil des ministres, il y a un gros pot là, maçon là, et chaque fois qu'un ministre est pris la main dans le sac, ben écoute, expression anglaise, tu mets $2 dans le pot. Hein, pourquoi pas? Non, mais c'est vrai.
C'est bon, ça. Sauf Fitzgibbon, OK?
C'est vrai. Il y a des privilèges, notre ami, M. Fitzgibbon. Le chiffre de la semaine, 449 et 55. Plus tard, et là, tu as aussi reçu à ton micro Brittany Ménard, cette jeune femme de Laval, qui a obtenu gain de cause aux petites créances pour une compensation financière du ministère des Transports parce que sa voiture a frappé un nid de poule. Une autre qui a composé avec les désagréments, pas juste Marc, dans la vie, qui compose avec les désagréments des nids de poule. Mais là, croyez-le ou non, le ministère non seulement ne veut pas payer, mais l'avocat qui devait se présenter aux petites créances la journée où l'audience est entendue ne s'est pas présenté. Le MTQ a déposé une injonction ou je ne sais trop, un document de cour pour dire, écoutez, nous, on réclame un nouveau procès parce qu'on avait une bonne raison de s'absenter. Je comprends qu'on a peur du précédent au ministère des Transports, mais il y a une maudite limite à se ridiculiser. Et suggestion constructive, une fois de plus, pour le sous-ministre en titre du ministère des Transports, là, hey, mettez le point sur la table, puis arrêtez-moi ça, ces niaiseries-là, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, le ministère, écoute, combien de deniers publics ça nous coûte là dans une opération d'acharnement comme celle-là? Je pense qu'il faut arrêter toute cette aberration. Et en terminant, nos pensées pour la communauté d'Amqui qui continuera d'avoir besoin de réconfort pour penser ses blessures.
Luc, avez-vous suivi l'affaire des militants qui téléphonaient à l'hôpital Sacré-Cœur pour essayer de décourager une femme de se faire avorter et le personnel soignant de la faire avorter? Donc, était à la 23e semaine. Et puis, dans un des appels, il y a une dame qui dit qu'on voulait qu'on communique à la patiente qu'elle devait plutôt mettre l'enfant au monde et le donner en adoption plutôt que de l'avorter. Comme si l'enfant, c'était une patate. Comme si l'enfant, c'était un objet. Tu le prends d'un corps, tu le mets dans une autre famille, toi. Si elle a décidé de se faire avorter, c'est dans son âme et conscience, là. C'est parce qu'elle juge qu'elle peut pas s'occuper de cet enfant-là. Mais s'il était au monde, sans doute que elle aurait à vivre une crise, c'est pas capable de s'en occuper pour des problèmes de santé, santé mentale, de où est rendue dans sa vie, de n'importe quoi. On ne sait pas, ça y appartient. Mais ça veut pas dire que parce qu'elle a pris cette décision-là, elle va donner cet enfant-là. C'est pas un objet.
C'est la même approche devant les cliniques d'avortement.
Ben oui.
Les manifestants hantent, puis il accroche les femmes qui se dirigent vers la clinique en disant « Non, non, on va vous accompagner, vous allez garder l'enfant, on le mettra en adoption après, puis tout ça. »
Quelle absence d'humanisme extraordinaire. Pour des gens qui prétendent vouloir sauver la vie, mais ils ne sauvent pas l'humanisme, par exemple. Ils comprennent pas c'est quoi la vie humaine. Ils comprennent pas ça. Là. Pour eux, c'est un objet. Oh, on te le passe, puis tant pis pour la mère. Elle a fait juste accoucher. C'est pas grave. Bon. Jean-François de la Sablonnière est passé à mon émission hier, avant-hier, quelque chose de même. Il parlait de d'Amqui. C'est un psychiatre qui travaille au CIS du Bas-Saint-Laurent. Il me disait, faisons attention dorénavant, quand on va devoir de plus en plus à parler de santé mentale. On doit distinguer une crise, problème psychologique, puis problème psychiatrique. Ça se peut qu'une personne soit en détresse, puis qu'elle vive un épisode de stress aigu, mais qu'elle est en problème psychologique. Donc, elle est isolée, elle a des problèmes de dépression, tu le disais tout à l'heure, elle est pas capable de reprendre le dessus, puis là, s'ajoute le stress, s'ajoute l'anxiété, boum. Mais ça soigne bien différemment de la psychiatrie. Ça soigne avec toutes sortes de choses que tu peux faire en région. T'es pas obligé de déménager la personne dans un hôpital à Rimouski, là. Tu peux t'en occuper dans un CLSC local. Et puis c'est pour ça que Carmen a raison de dire qu'une grande part des soins peuvent être donnés en région.
Non, mais actuellement, par contre, tu regardes Amqui, là, si t'as besoin d'un psychologue, il faut que tu fasses 50 kilomètres.
Oh, 100 kilomètres. Écoute, c'est Rimouski, les amis.
Je te parle même pas d'un psychiatre, mais même juste un psy, je pense qu'ils ont affiché au CLSC. Je te donne l'exemple de Matane à un poste de psy, là. Puis il n'y a personne qui lève la main, là.
D'accord. Donc, il y a un problème à régler, mais le problème n'est pas aussi grand que la nécessité d'aller sur la psychiatrie. Puis comment ça se fait qu'il n'y a pas un psychologue à 50 km de Puis, là, fouillez-moi, mais ça se règle. C'est le genre de problème qui se règle. Et ou surtout, c'est le genre de problème qui ne se règle pas juste par la santé. Ça se règle par des groupes de discussion. Ça se règle par des activités. Ça se règle par une solidarité. Ça se règle par retisser un milieu qui est peut-être un peu décousu. Peut-être pas. Amqui, peut-être ailleurs. Je ne veux pas juger le milieu d'Amqui, mais c'est pas juste ça, la santé mentale. C'est pas juste des pilules, là. C'est des rencontres, c'est des contacts, c'est tout ça. Adrien Moreau, maquilleur, avez-vous vu ça?
Ben oui, aux Oscars. Oui.
Tabarouette. Le gars, il a transformé Brendan Fraser en un personnage qui pèse 600 livres. Avez-vous vu comment...
C'est tout un film.
Et le résultat, t'as vu le résultat? C'est incroyable. Moi, je comprends qu'il a gagné l'Oscar. Alors, c'était pendant la pandémie, puis il était pas capable de... Il y avait pas le gars devant lui, fait qu'ils ont pris des images, ils ont travaillé ça en 3D, avec des logiciels 3D qui permettaient de reconcevoir le personnage et de concevoir les prothèses, puis ils sont arrivés à un résultat extraordinaire. Alors, le jour même où il essayait le costume, ça marchait. Donc, lui a révolutionné la façon de faire. Il a pas juste fait... Fait que ça s'appelle costume et maquillage, ça doit porter un autre nom que ça, là.
C'est
la transformation physique d'un personnage. C'est quelque chose d'extraordinaire. Là. C'est pas juste tu prends de la poudre puis tu mets ça en face. Là, puis tu mets une oreillette autour de la chemise. Là.
C'est plus qu'un costume d'Halloween.
Oui, non, c'est ça. C'est mieux qu'un costume du Capitaine Bonhomme ou tu vas prendre la ribaud de dingue. Là, on est d'accord. Merci.
C'est 23.